De retour à l'émission Au gré du temps, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Mme Chantal Boivin, qui est altiste à l'Orchestre symphonique de Montréal depuis quand même un certain nombre d'années.
Oui, je pense que je commence ma 14e saison.
Est-ce que après 14 ans, on réussit encore à se renouveler?
Oui, il faut.
Au plan de l'interprétation, oui?
Oui, il faut.
Et comment
ça
fait-on?
C'est pas facile. C'est pas facile d'avoir toujours la flamme, hein, parce que... Quelquefois, on peut tomber dans le « OK, je suis là, c'est dû. » Mais à chaque jour, tu te lèves le matin et tu dis « OK, bah, c'est une nouvelle journée, puis c'est un beau métier. » Il faut travailler fort. Il faut constamment se renouveler et puis être à la fine pointe.
Quand on assiste à un concert, il y a un aspect cérémonial important, c'est-à-dire, le premier violon qui va venir donner la note pour que tous les musiciens ajustent leur instrument de façon correcte. On donne le la, je crois.
Exactement.
Il y a ses vêtements, tous sont revêtus de noir, sauf exceptionnellement, parfois c'est le blanc. Il y a quand même vraiment, j'allais dire, presque une messe.
Oui, oui.
Quand on est à l'intérieur, quand on est musicien au sein d'un orchestre, j'imagine qu'on voit ça aussi différemment. On joue la messe.
Oui, c'est ça, exactement. Cette préparation-là, pour nous, c'est classique. Tous les orchestres font ça. On peut avoir des petits changements là, de la façon de procéder, mais pour ce qui est de l'entrée sur scène, il y en a qui le font tout ensemble, mais comme l'orchestre, je pense qu'ils ont essayé de faire ça ici à Montréal, mais les gens ont vraiment besoin d'être sur la scène pour commencer, pour jouer. Alors, vous voyez, quand vous rentrez, les musiciens sont en train de regarder les passages et tout. Après, on arrête et là, ils donnent le la. Et c'est vraiment important pour nous autres de bien s'accorder. Le fait de se lever, c'est pour saluer le chef, mais c'est aussi pour saluer le public. C'est sûr qu'on peut pas tout faire le salut et tout, mais le fait de tout se lever, puis avec M. Nagano, il insiste vraiment que tout le monde se lève en même temps, que tout soit égal et parfait. Il y a un petit code spécial pour nous dire qu'il faut tout se lever en même temps.
Ah, c'est quel est ce secret?
Ah, non, je vous le dis
ah,
pas.
Ah bon, d'accord.
Puis, on l'a même pratiqué. Hein?
Ah oui, vraiment?
Oui. Mais c'est important pour le public et c'est quand même impressionnant de voir 110 musiciens se lever en même temps. Puis, c'est pour la personne qui est dans la salle, ça donne vraiment une idée de grandeur. Ça dispose bien aussi pour le concert.
En première partie d'émission, vous nous disiez qu'il y avait une grande différence entre la répétition et le fait de jouer ensuite au sein de l'orchestre, parce qu'on se sent appuyé par les autres. Mais comment réussit-on à suivre? Vous disiez que les répétitions sont importantes, mais à suivre le tempo, à ne pas être en décalage avec les autres?
Ça peut arriver, hein, parce qu'un concert live, c'est un concert live. Mais c'est quand même, avec l'OSM, là, c'est quand même assez rare. On est très bien préparé pour ça. C'est sûr que le chef est là pour maintenir, mais on est formé pour faire ça. Alors, pour nous, c'est... on sait qu'est-ce que la personne fait autour de nous. Si on entend telle chose, peut-être qu'on va peut-être devoir ralentir une petite chose. Mais vraiment, le public ne le saura pas. Là.
Quelle est la particularité de cet orchestre, celui de Montréal?
Oh, c'est incroyable. C'est la rapidité de l'apprentissage. C'est sûr que, bon, cinquième ou la quatrième de Bruckner, la plupart des gens l'ont fait au moins 100 fois. Ou Beethoven, la cinquième de Beethoven. Mais quand on a des nouvelles pièces, c'est sûr que peut-être la première lecture, on va s'ajuster, mais écoutez, ça va tellement vite. Les gens apprennent d'une vitesse incroyable. Ouais,
on disait que les cordes aussi étaient particulièrement belles au sein de l'Orchestre symphonique de Montréal.
Oui, on a le son de l'orchestre aussi, la particularité, on est entre les États-Unis puis la France.
L'Europe.
Oui, c'est ça, excusez, l'Europe.
Oui.
Alors, c'est un beau mélange des deux cultures musicales.
Oui, d'ailleurs, là, Charles Dutoit a beaucoup poussé pour en faire, au plan du répertoire, un orchestre européen.
Européen, oui,
n'est-ce
c'est
pas?
Ça. Oui.
Avec un répertoire qui était peut-être un peu négligé et qu'il a remis à l'avant-scène. On pense à ses compositeurs français, particulièrement Ravel,
Debussy.
Voilà.
Oui.
Alors, on fait une incursion pendant quelques minutes dans un monde qui n'est pas celui de la musique classique. C'est un choix à vous. Parlez-nous de votre prochain extrait musical.
Écoutez, quand je suis arrivée à Montréal, je me suis aperçue qu'on y avait des musiciens, ben, you know, super. Alors, mais pour moi, Oscar Peterson, je n'avais entendu parler, mais je ne savais pas qu'il était montréalais. Alors, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai fait « Wow, c'est super! » Il y avait aussi Manon Ferguson, plus tard, que j'ai appris aussi qu'il vient de Montréal. Alors, pour moi, j'écoutais ça vraiment souvent après avoir mes pratiques d'alto. Le soir, ça me relaxait vraiment beaucoup.
Alors, de ce trio, le trio d'Oscar Peterson, nous entendrons une pièce très connue de Duke Ellington qui a pour titre « Bancal ». C'est en jouer cette musique, Madame Boivin.
J'adore ça, j'adore. Merci.
Avec nous, Chantal Boivin, qui ne joue pas de musique de jazz, qui joue davantage de musique classique puisqu'elle est altiste au sein de l'Orchestre symphonique de Montréal. Mais est-ce que vous poussez parfois la note sur un répertoire un peu moins sérieux, disons?
Oui, je fais partie d'un quatuor avec des membres de l'Orchestre symphonique de Montréal. C'est le quatuor Gracielle Robitaille et on fait beaucoup de mariages ou des réceptions. Et vraiment, notre répertoire n'est pas... On a du classique, oui, on commence classique, mais on finit vraiment avec pop, New York,
Oui.
Des tangos, plein de choses comme ça. Ça, c'est rafraîchissant.
Est-ce que vous écoutez vous-même beaucoup de musique?
Oui, je vais écouter plus de jazz que... J'écouterai pas tant que ça la musique classique parce que je l'entends tous les jours quand je pratique.
Ah,
si j'écoute la musique classique, c'est peut-être pour l'apprentissage d'une pièce ou pour l'étude d'une pièce en particulier. Alors, c'est sûr que je vais aimer ça, aller voir d'autres orchestres symphoniques jouer ça, c'est évident.
Est-ce que vous avez des idoles au sein des interprètes ou des solistes?
C'est sûr que Yo-Yo Ma, c'est pour moi un grand...
Violoncelliste.
Zuckerman, violoniste et altiste, finalement.
Ça, qui a fait aussi un peu, dit-on, de direction d'orchestre.
Oui, il est à Ottawa, à l'Orchestre national d'Ottawa.
Oui. Oui. Il y en a d'autres?
Là, vous me prenez au dépourvu.
Mais
il y en a tellement, c'est incroyable.
Quand vous êtes au sein de l'Orchestre symphonique et que vous voyez arriver ces grands noms
Oui. Qui
viennent souvent
oui.
comme solistes, j'imagine qu'on ressent quand même une très grande fierté de pouvoir accompagner de tels interprètes.
Je me souviens justement, mon professeur, quand j'ai gagné le poste à l'OSM, m'a dit « Maintenant, tu vas jouer avec des grands musiciens. » Et il avait raison. C'est vraiment extraordinaire de tes voix arriver. Puis il répète avec nous, puis ils sont gentils. C'est très rare hein, que les gens sont durs ou sont super gentils, puis ouais, ça respire. Ouais.
Et au plan de la discipline, c'est difficile de pouvoir maintenir son, son excellence.
Le calibre, oui. Ah oui, c'est difficile.
Ça veut dire des heures et des heures de répétition chaque semaine?
Des heures de répétition, oui. Et puis, pas juste avec l'orchestre. Hein. Les gens, des fois, ils vont dire, oh, ils travaillent juste 20 heures semaine. Mais c'est parce qu'il faut comprendre qu'il faut pratiquer à la maison nos pièces qu'on va jouer. C'est pour ça aussi que l'orchestre elle, fait les pièces d'une vitesse folle. C'est parce que les gens se préparent avant. C'est quand même assez sérieux.
Donc, il y a toujours de la musique chez vous?
Ah oui.
Toujours?
Toujours. Toujours, le mari, les enfants.
Vous avez des enfants?
Oui, exactement.
Et qui jouent aussi de la musique?
Oui, ils font du piano, les deux, oui.
Deux filles?
J'ai un garçon, j'ai une fille plus vieille, Jennifer, et Thomas, qui a 7 ans, il fait du piano aussi, oui.
Alors, ils sont bien installés dans cet univers musical.
Absolument.
Alors, on va maintenant entendre une pièce. Vous disiez que le répertoire pour les altistes n'était pas très abondant. Mais il y a Mozart, vous l'avez vous-même mentionné, qui a composé une symphonie concertante pour violon et alto. Pourquoi le violon? Ben, peut-être que... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces uniquement pour alto, hein, c'est curieux.
Non. C'est surtout dans cette période-là. On va plus loin dans les périodes comme Bartok, Hindemith. Alors, c'est vraiment plus... ouais.
Mais cette pièce-là, elle est vraiment...
Ah, c'est super.
Vraiment très belle. Je pense d'ailleurs, et je m'avance, mais sous toute réserve, je pense que l'extrait que nous allons entendre était également présent dans le film Le Léopard avec Burt Lancaster, qui est un classique du cinéma. Mm-hmm. Et je pense qu'on entendait souvent
des extraits.
Oui, ce deuxième mouvement qui est l'Andante de la symphonie concertante, que c'est le 364 de Mozart. Ici, c'est Yuri Gandelsman qui est à l'alto et Gil Sharon au violon. Et c'est l'orchestre de chambre Amati, sous la direction de Gil Sharon lui-même, qui interprète cet extrait. Thank you. On ne peut pas ne pas tomber en amour avec pareille musique, n'est-ce pas?
Absolument. C'est tellement bien fait, bien construit. Qui n'est pas facile, mais c'est vraiment bien posé pour l'alto aussi.
Avec nous aujourd'hui, Chantal Boivin, qui est altiste à l'Orchestre symphonique de Montréal. Quand vous imaginez la suite des choses, parce que vous disiez que ça fait déjà près de 15 ans que vous êtes au sein de l'Orchestre symphonique de Montréal. La pérennité au sein d'un orchestre, ce n'est pas nécessairement facile parce que vous l'avez dit, il faut bien sûr s'exercer constamment pour maintenir le calibre, mais survient souvent des difficultés au plan des jointures, des articulations, parce que c'est un travail qui physiquement n'est pas facile non plus.
Oui. Il y en a beaucoup de mes collègues et moi-même dernièrement j'ai eu des petits problèmes, maintenant c'est presque réglé. C'est très difficile physiquement pour toutes sortes de choses, puis on fait toujours la même motion aussi, hein? c'est toujours la même chose, puis à un moment donné c'est sûr que soit un muscle va lâcher ou une tendinite ou...
Est-ce que vous êtes accompagné par soit des ergonomes ou...
Non, mais... C'est drôle ce que vous mentionnez, c'est justement nous avons un médecin maintenant au sein de l'orchestre qui nous aide beaucoup. Il fait juste soit des danseurs ou des musiciens, puis qui voit le problème, puis il va nous diriger vers qu'est-ce qu'on a besoin, comme, je sais pas moi, l'acupuncture ou l'ostéopathie ou quelque chose comme ça. C'est tout récent, là. C'est tout nouveau au sein de l'orchestre. Puis, comme les ballets canadiens, ça fait quand même longtemps qu'ils ont quelqu'un avec eux. C'est sûr qu'eux se blessent plus souvent, mais nous, on n'en parle pas. Nous, on veut pas rien dire. On n'est jamais blessé. Puis on va continuer à jouer pareil, même si ça fait mal. Ça, c'est...
Mais on est plus sensible maintenant à ce genre de choses qu'on
oui,
était auparavant.
Mais on est vraiment comme 15 ans en arrière de... des gens, de beaucoup d'orchestres. Ou de, ouais,
à ouais. cause de ces mouvements répétitifs qui, au plan des articulations, sont quand même assez éprouvants.
C'est ça.
Madame Boivin, vous disiez que vous aimiez la musique jazz. Vous oui. nous avez amené aussi une autre pièce jazz d'une découverte, celle de Menard Ferguson, oui. l'orchestre de Menard Ferguson. Alors, cette pièce, c'est Easy to Love de oui. Cole Porter. Cet orchestre, vous l'avez découvert comment, celui de Menard
ah, ça,
Ferguson?
C'est mon père, encore une fois. il y avait tous ses disques à la maison, alors je les écoutais à tous les jours. J'y connaissais par cœur, vraiment par cœur. C'est pour ça que j'aurais aimé faire un cuivre, parce que j'aurais vraiment aimé faire du jazz de ce côté-là. Mais écoutez, ça, c'est quelque chose pour moi que je peux écouter n'importe quelle heure de la journée. Puis ça me...
Alors, à cette heure-ci, ça vous va?
Ça va. Super. Merci beaucoup.
Très enlevant quand on écoute Menard Ferguson, n'est-ce pas?
C'est, il est extraordinaire, oui.
Est-ce qu'il y a des points de convergence entre le jazz et la musique classique?
Oh, oui, il y a des petites...
Au niveau du rythme, au niveau...
Oui, au niveau du rythme, la façon de se présenter, c'est moins sérieux, là, vraiment moins sérieux. Malgré qu'il faut vraiment être capable de bien jouer, là, ça, c'est...
Mais c'est aussi exigeant.
C'est aussi ça. Exigeant, ça, c'est assez difficile. Mais les gens sont pas vraiment aussi sérieux, en tout cas, moi, ce que je vois, là, des jazzmen que des personnes qui font du classique.
Alors, le temps passe rapidement, mais je serais tenté de vous poser la question à la fois simple et complexe. Si je vous disais, la musique pour vous, ça représente quoi?
Ça représente la vie. Quand j'ai eu Jennifer, la première fois, j'ai pas joué pendant 6 mois parce que j'étais occupée avec elle. C'était la première fois que j'arrêtais aussi longtemps de toute ma vie, finalement. Et ça me manquait. Mon corps en manquait. J'avais tellement hâte de retourner travailler parce que je sentais que mon corps était pas comme d'habitude. Même si j'en écoutais, là, mais c'était la présence de tous les musiciens ou les collègues autour de moi, le son que ça fait, ça me manquait. Mon corps en avait besoin, en avait soif.
Et vos projets pour le futur? Votre quête, quelle serait-elle?
Oh, écoutez, j'ai tellement des projets, je fais tellement de choses.
Vous avez un rêve, par exemple, que vous aimeriez, au plan musical, réaliser?
Écoutez, non. Moi, je vais au jour le jour. S'il y a quelque chose qui arrive, puis que je pense, oh, ça, là, je vais faire ça, mais pour l'instant, je suis super bien.
Alors, vous vivez le rêve tous
le
les jours.
Le rêve, exactement.
Bien, Madame Boivin, on vous remercie beaucoup de nous avoir un peu permis de mieux comprendre ce qu'est le rôle d'un musicien au sein d'un grand orchestre, en l'occurrence, celui de Montréal, l'Orchestre symphonique de Montréal, puisque vous travaillez sous la baguette de Kent Nagano
oui.
et que vous avez travaillé aussi sous la baguette de plusieurs chefs. On ne peut qu'espérer vous entendre encore longtemps. Et je suis certain que les auditeurs et auditrices qui iront dorénavant assister à l'écoute d'un concert de l'OSM porteront peut-être une attention particulière à la section des altos. Vous êtes combien d'altistes au sein de l'OSM?
Ça dépend. On est entre 10 et 13.
Dépendant de
la formation
et de l'œuvre qui est
performée. Oui.
Alors, j'espère que pour vous, ce fut fort agréable comme ce le fut pour nous.
Oui, je vous remercie. infiniment pour votre invitation.
Madame Boivin, beaucoup de succès. C'était l'émission Au gré du temps, Armand Dubois au micro, qui vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Revenez-nous la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Daniel Fortin. Au plaisir. Au revoir.
Au revoir.